particulièrement important à traiter. La question de l'intelligence. Si on pouvait mesurer nos intelligences, j'aurais à droite ceux qui avaient un facteur important d'intelligence. Et à gauche, ceux qui sont à l'état embryonnaire. La leur intelligence. Heureusement qu'on ne peut pas mesurer l'intelligence. Et que nous avons tous, et je peux l'affirmer, nous avons tous une intelligence capable de progrès indéfini. Je ne peux pas dire qu'à 45 ans, c'est terminé le progrès d'intelligence. Les mathématiciens, vous savez bien, disent qu'à partir de 45 ans, on n'est plus bon à grand chose parce qu'il n'y a plus beaucoup d'intuition nouvelle. Au plan philosophique, je dirais l'inverse. C'est à partir de 45 ans qu'on commence à être intelligent métaphysiquement. Donc, il y a beaucoup d'espoir pour beaucoup d'entre vous. Et je crois qu'au plan métaphysique, on progresse toujours. Je me souviens, quand j'avais dit au Saint-Père, j'arrive à l'âge où je dois donner ma retraite de la faculté de Fribourg. Alors le Saint-Père m'a dit, mais la métaphysique alors, qu'est-ce qui vous remplace? Je lui ai dit, je ne sais pas, très Saint-Père, je ne sais pas. Puis il me dit, la limite d'âge, qu'est-ce que ça veut dire pour la métaphysique? Alors je dis, c'est très vrai, très simple, ça ne signifie rien du tout. Mais je suis en même temps fonctionnaire helvétique. Là, ça signifie quelque chose. Alors il me dit, ah, ça c'est vrai. Et c'est très vrai que la découverte de l'intelligence, le nous grec, c'est presque intraduisible. L'intelligentsia, en latin, intellectus, et une intelligence en français. Ce serait très intéressant de regarder tous les mots qui ont été inventés pour exprimer cette première dimension de l'esprit. Intelligence, raison, entendement. Descartes, c'est l'entendement. C'est plus l'intelligence. Et la raison, on sait très bien, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est pas l'intelligence, la raison. C'est deux choses différentes. Et pour Aristote, le nous passif et le nous actif, si on a le temps, on y reviendra. Petite distinction très intéressante. Le nous, c'est cette qualité particulière de l'esprit qui consiste à pénétrer plus avant, toujours plus avant, dans la réalité qu'on connaît. Pour saint Thomas, l'intellectus, c'est intus. Légère, c'est très proche de rigueur. Lire de l'intérieur, c'est propre de l'intelligence. L'intelligence, elle lit de l'intérieur. Tandis que nos sens, nous regardons de l'extérieur. Et c'est vrai, quelqu'un d'intelligent ne regarde jamais d'extérieur. Parce qu'il sait que le regard de l'extérieur est toujours très artificiel. Et un être intelligent, c'est celui qui s'efforce de toujours regarder les choses de l'intérieur, aussi bien les personnes que les réalités. Mais c'est évident que c'est très difficile de regarder de l'intérieur des réalités matérielles. Parce que je crois que les réalités physiques et matérielles justement, on refuse ce regard intérieur serait un problème très intéressant. De savoir si une réalité physique, matérielle, peut être regardée de l'intérieur. Ou seul, l'esprit peut être connu de l'intérieur. Vous savez, cette parole de l'Évangile, je peux la citer ici même en philosophe. L'Esprit Saint que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Et parce que, justement, il regarde tout de l'extérieur. Je crois que c'est l'esprit qu'il faut essayer de saisir. L'intelligence, c'est être spirituel. Être intelligent, c'est regarder les choses de l'intérieur. C'est le caractère propre de l'intelligence. Alors, comment comprendre ce qu'est l'intelligence ? Oui, nous pouvons constater, décrire. Et je crois qu'une des meilleures descriptions d'intelligence, c'est dire « in tous les gérés », lire de l'intérieur. On peut encore ajouter, quand je regarde d'une façon descriptive, que le propre de l'imagination, c'est représenter. On représente les choses. Et ceux qui sont les représentants d'une maison de commerce ou une industrie, les représentants, il faut beaucoup de bagou, il faut beaucoup d'imagination. C'est très significatif, représenter quelque chose, tandis que signifier quelque chose, le domaine de la signification, c'est autre chose. C'est un domaine beaucoup plus intérieur. C'est un domaine beaucoup plus spirituel. C'est avec l'intelligence que nous découvrons la signification des choses. Je crois que c'est très important, au plan du descriptif, de bien comprendre toute la différence qui existe entre l'ordre de la représentation. Vous représentez quelque chose. Et lors de la signification. Prenez un exemple très simple, comment vous vous représentez un petit chat. Et de petites oreilles, et puis une petite moustache. Puis si vous allez un peu plus loin, avec des petites pattes qui vont vous représenter ça. Vous pouvez vous représenter ça très astucieusement. Ceux qui font des caricatures sont des gens qui représentent admirablement. Quelquefois trois traits, vous voyez tout de suite. Surtout quand c'est des gens importants dans le gouvernement. Alors on fait la caricature, le nez, ça se voit tout de suite. Et c'est la représentation. Tandis que la signification, c'est tout à fait autre chose. On signifie ce qu'est le chat. On signifie ce qu'est l'animal. Vous êtes au-delà de l'ordre de l'imagination et de la représentation. Vous êtes dans un autre ordre. On ne peut plus représenter la signification de l'animal. C'est quelque chose qui dépasse. La représentation est toujours singulière. La signification est universelle. Tiens, il y en a quelque chose extrêmement important que je peux souligner tout de suite. La représentation est toujours singulière. Vous ne pouvez pas représenter quelque chose d'universel. Impossible. Vous représentez toujours un individu. Quelque chose de particulier. Tandis que la signification a un caractère universel. Vous signifiez ce que c'est qu'animal. La signification d'animal est universelle. Vous signifiez la signification du chat. Le chat en soi, le cheval, l'homme. Vous passez du singulier à l'universel. Et toute signification a quelque chose d'universel. Ceci indique qu'il y a un passage du domaine sensible. Un domaine intelligible domaine de l'intelligible. Et dans le langage, je m'aperçois qu'il y a des mots qui restent toujours liés au sensible. Et puis des mots qui expriment quelque chose d'universel. Et le langage est un signe qu'en effet, il y a cela. L'art est de l'ordre toujours de la représentation et de la signification. Ah, c'est très curieux. C'est l'art qui fait la synthèse des deux. Et c'est propre du symbole. Si vous voulez comprendre ce que c'est qu'un symbole, vous êtes bien obligé de regarder le point de vue de la représentation et le point de vue de la signification. Un symbole qui ne signifierait rien ne serait pas un symbole. Le symbole a quelque chose d'universel et quelque chose de singulier. C'est peut-être à cause de ça que si séduisant, il y a une séduction extraordinaire du symbole et du langage symbolique. Parce qu'il est immédiat. Il représente quelque chose. Je peux le saisir dans ma sensibilité. Et en même temps, il a quelque chose d'universel. Donc, la distinction que je fais entre représentation et signification est d'une certaine manière dépassée dans le langage symbolique. Et dans le langage symbolique, il y a toujours une signification. Mais il peut y avoir une signification qui dépasse toute signification symbolique et que je ne peux plus représenter. Il y a des significations que je peux représenter et des significations qu'on ne peut pas représenter. Quand vous êtes au niveau des principes, vous ne pouvez pas représenter symboliquement un principe. Impossible. Et pourtant, c'est une signification. Donc ici, c'est un principe, la nature. La nature, principe immanent du mouvement dans les réalités physiques. Donc ici, c'est l'ousia, la substance. Vous ne pouvez plus la représenter. Et le domaine de l'audiovisuel est toujours au niveau du symbole. Et il y a quelque chose qui échappe. Quelque chose qui va plus loin. Il y a donc là quelque chose que je constate que ce n'est pas si commode de bien distinguer représentation et signification, puisque de fait, certaines réalités impliquent les deux. Alors, je vais me poser la question maintenant, qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Pour essayer de mieux comprendre ce domaine de la signification. Pour essayer de mieux comprendre l'au-delà du symbole et pour mieux comprendre ce que c'est que le symbole. Et peut-être aussi, j'en ai pas parlé, mais ça aurait été très intéressant aussi d'en parler, la question du secret. Je suis capable d'avoir un secret dans mon cœur. Et le secret est quelque chose de tout à fait particulier, de personnel. Je ne vais pas publier mes secrets. Je ne vais pas faire un cours sur mes secrets. Tandis que je fais un cours sur les principes. Ça, je veux bien. Mais les secrets, non. Ah non. N'entrez pas dedans. J'ai le droit d'avoir des secrets. Toute personne humaine a le droit d'avoir des secrets. Et quand on divulgue des secrets, on est furieux. Et on a raison. Quand on dit à quelqu'un, je te communique ça comme un secret, garde-le. Et puis 3 minutes après, vous apercevez sur l'agora que le secret commence à se divulguer. Vous commencez à être furieux. Divulguer des secrets, c'est affolant. Le secret est quelque chose de très particulier. Nous y reviendrons la fois prochaine. Mais ici, je signale simplement que le secret a une signification. Une signification affective et personnelle. C'est jamais universel, un secret. Vous n'avez pas de secret en science. Vous n'avez pas de secret en mathématiques. Hein, sauf quand vous faites une découverte particulière et que vous ne voulez pas qu'elle soit divulguée avant que vous ayez écrit un article dessus. Et ça, c'est très différent. C'est très très différent. Vous savez très bien que c'est pas un secret. Une conclusion scientifique n'est pas un secret. Ça peut être momentanément un secret pour vous. Parce que vous voulez communique sans envie. C'est la parole de l'écriture qui est très belle. Tandis qu'on ne dit jamais qu'un secret se communique sans envie. Un secret, c'est personnel. Oui, comme c'est curieux, le domaine de l'individu, le domaine de l'universel. Et tout ça, c'est descriptif. Hein. C'est intéressant, c'est très important. Ce qui me montre qu'il y a quand même un domaine d'une connaissance singulière, d'une connaissance universelle, et qu'il y a de temps en temps des retombées vers le singulier, et que le singulier peut très bien être porteur de l'intelligence. L'intelligence peut habiter le singulier dans le secret, dans la connaissance symbolique, mais que le domaine de l'intelligence apparaît en premier lieu dans le domaine de la signification. Alors qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Est-ce que je peux saisir ce que c'est? Je vais faire ici, et ce serait important de le faire, l'inventaire de mes opérations intellectuelles qui impliquent une signification. Et c'est en faisant l'inventaire de toutes ces opérations intellectuelles que je vais pouvoir saisir ce que c'est que l'intelligence. Puisque l'intelligence, elle est source de ces diverses opérations. L'intelligence en soi, ça n'existe pas. Chacun d'entre nous, nous sommes intelligents. Tout le monde ne serait pas ici ce soir. Donc chacun d'entre nous, on est intelligent. On est capable de creuser certaines choses et de vouloir aller toujours plus loin. C'est un des signes du réseau de l'intelligence, de ne jamais s'arrêter. Je crois que c'est le propre de l'intelligence, de ne jamais s'arrêter, de jamais se contenter de s'arrêter. En disant, maintenant je possède. L'intelligence ne possède pas. L'intelligence cherche, cherche. Et quand elle découvre la vérité, elle ne possède pas la vérité. Elle ne peut pas posséder la vérité. Elle est possédée par la vérité. Elle ne possède pas la vérité. Puisque la vérité apparaît comme une perfection de l'intelligence. C'est les petits intellectuels qui possèdent la vérité. Et les grands intellectuels sont possédés par la vérité. C'est tout de suite un démarquage. 1m50, 1m90. Vous avez là un démarquage. Oui, parce que on sait très bien. Celui qui possède la vérité, je possède la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire posséder la vérité? On recherche la vérité. Et quand on pense bien saisir la vérité, on ne la possède pas. On est heureux. Parce que c'est comme une qualité de l'intelligence. C'est comme un moment où l'intelligence est parfaitement d'elle-même. Alors vous voyez, ça ce serait très intéressant. C'est peut-être par la vérité que je peux saisir le mieux ce que c'est que l'intelligence. Parce que la vérité, ben, nous en avons un peu l'expérience. Chacun d'entre nous, on a tous un peu une certaine expérience de la vérité. Quand vous racontez à quelqu'un votre petite expérience d'un voyage lointain, et que vous avez rencontré là des choses très extraordinaires, et que vous racontez ça à votre ami, il dit, oh, n'exagère pas, quand même, ah, je t'affirme, c'est ça que j'ai vu, je te dis la vérité. Nous disons ça constamment. Je t'affirme, je te dis la vérité. Quand vous dites ça, vous témoignez à vous-même et à un autre que votre intelligence est de saisir certaines choses. Elle est capable de saisir certaines choses d'une façon telle qu'elle est capable de réfléchir là-dessus en disant « Je t'affirme, c'est la vérité. » Quand vous lisez un livre qui vous intéresse profondément, un livre sur la philosophie, sur l'art, sur la religion, sur le sacrifice, sur le sacré, vous dites, tiens, ah ça, oui, ça me semble vrai, mais là, douteux. aurait besoin de cela. Ne disons pas que c'est un besoin de sécurité. Oh, pas du tout. C'est deux choses tout à fait différentes, la sécurité et la vérité. Vous distinguez les deux. Que la vérité engendre en vous une certaine sécurité comme conséquence, oui. Que la vérité engendre en vous une certitude qui vous donne la sécurité, c'est très possible. Mais la vérité est autre chose que cette sécurité et la certitude. La vérité, c'est une qualité profonde de notre vie intellectuelle dont nous avons besoin. Nous avons besoin de progresser de vérité en vérité. De lumière en lumière. Donc, il y a cette première piste qui serait très intéressante à creuser. Nous sommes capables d'atteindre la vérité. Quand on dit ça, on caractérise quelque chose qui est en nous de très important. Capable d'atteindre la vérité. C'est pas la raison. La raison raisonne. C'est pas de la raison, c'est de raisonner. La raison, c'est la logique. Et d'une certaine manière, la vérité est au-delà de tous les raisonnements. Que des raisonnements nous conduisent à la vérité, c'est très bien, mais c'est autre chose. Nous avons une autre piste. J'essaie de saisir les diverses opérations que nous pouvons constater pour essayer ensuite de saisir ce que c'est que l'intelligence, que nous ne saisons pas directement. Vous réfléchissez sur vos opérations intellectuelles. Vous réfléchissez sur votre capacité d'atteindre la vérité. Et ce serait suffisant. Réfléchir sur ma capacité d'atteindre la vérité. Au terme, je serai obligé de reconnaître qu'il y a en moi quelque chose de très important qu'on appelle l'intelligence. Mais je ne veux pas rester uniquement sur cette piste, mais elle est capitale, cette piste. C'est peut-être la piste principale. C'est peut-être la vérité, la recherche de la vérité, qui manifeste le mieux ce que c'est que l'intelligence. Je crois. Parce que les raisonnements ne font pas comprendre ce que c'est que l'intelligence. Les raisonnements font comprendre ce que c'est que la logique. Les raisonnements font comprendre ce que c'est que la raison. Il y a des gens qui sont très très forts en raisonnement, mais qui sont très peu intelligents. Ça arrive. Ils font des erreurs énormes au niveau du discernement. Ah, voilà une autre piste. Le discernement. On arrive à discerner. Vous savez bien qu'en grec, le jugement, c'est krinein. C'est discerner. C'est le latin qui prend le mot iudicium. Mais le grec a quelque chose de plus profond. Il parle de discernement. Mais quand vous dites à celui-là, très mauvais jugement, incapable de juger, incapable de discerner, il fait des erreurs énormes. Il raisonne, mais il raisonne indéfiniment. Et quelqu'un qui raisonne indéfiniment, moi ça me fait toujours penser à ces vieux moulins à café dans lesquels il n'y a plus de grain à moudre, mais ça continue de rouler. Il y a des gens comme ça qui raisonnent indéfiniment. Et on dit, mais vous raisonnez pourquoi? Ah, pour le plaisir de raisonner. Ah, très très bien. Il n'y a plus de grain à moudre. Mais ça ne fait rien, vous continuez. C'est le gosse qui fait ça. Les gosses font toujours ça. C'est très très joli. Ils s'amusent, puis ça continue. C'est très curieux, hein. Vous savez bien que la folie ne supprime pas la logique. Un théâtre italien qui est merveilleux pour ça. Qui montre que les fous sont plus logiques que n'importe qui. Dites pas que tous ceux qui sont logiques sont fous, hein, sûrement pas. Mais dites que il peut arriver qu'il n'y a plus aucune capacité de discernement et qu'on continue de raisonner à l'infini. Et donc, on raisonne, on demeure dans la logique, mais il n'y a plus de grain à moudre. Pensez toujours à cette image, parce que dans un dialogue, c'est assez gênant, quand plusieurs pensent à la même image, on sourit, et on dit, allez, vas-y, continue. raisonnement pour lui-même. Ça n'a pas de sens. Au-delà du raisonnement, au-delà de la logique, il y a le discernement. Mais c'est pour ça que la logique, pour la logique, ça frôle la bêtise. C'est très curieux. Parce que justement, la logique est ordonnée à autre chose. La logique, c'est, ça regarde le raisonnement. Ça ne regarde pas l'intelligence. Je sais très bien qu'il ne s'agit pas de couper, de séparer intelligence et raison. Saint Thomas dit admirablement, et nous reviendrons ça au terme, mais je vous le dis tout de suite, Saint Thomas dit admirablement que pour nous, notre intelligence, elle a comme modalité d'être une intelligence qui raisonne. Notre manière d'être intelligent implique le raisonnement. Donc il ne faut surtout pas mépriser le raisonnement. Il ne faut surtout pas mépriser la logique et le raisonnement. Mais il faut considérer que le raisonnement et que la logique demandent d'être dépassés par l'intelligence. Le raisonnement, c'est le conditionnement de notre vie intellectuelle. Il n'y a pas de finalité. La finalité est au-delà du raisonnement. Et c'est l'intelligence qui découvre cela. Ça, c'est une distinction très importante à faire quand on veut savoir ce que c'est que l'intelligence. On laisse tomber ça en disant, c'est très très bien, je reviendrai. Il ne faut surtout pas laisser tomber le raisonnement. Il ne faut surtout pas, c'est impossible, on n'avancerait pas. Mais il faut considérer que le raisonnement est second. Ce n'est pas ce qui caractérise l'intelligence. Et c'est du reste très curieux. Les gens peu intuitifs raisonnent beaucoup. Les gens trop intuitifs raisonnent peu. On leur dit, raisonnez un peu plus. Ouvrez moins de gaffe. Mais c'est une très grande qualité hein, de pouvoir saisir les choses directement par une certaine intuition. Alors, prenons discernement, vérité, discernement. J'essaie de comprendre un peu. Le discernement, c'est de l'ordre de l'intelligence. Et il y a des discernements pratiques qui sont extrêmement importants. On arrive à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. L'intelligence pratique, elle fait ce discernement. Et celui qui ne fait pas le discernement entre ce qui est bien et mal, au bout d'un certain temps, on sait très bien, il se fourvoie complètement. Il perd complètement l'orientation de sa vie. Donc il n'est plus maître du gouvernail. Il n'arrive plus à discerner. L'intelligence discerne. Elle discerne dans notre pratique. Elle discerne dans notre spéculatif. Le discernement dans notre spéculatif, c'est l'expression. On divise. Ah, ça, c'est une opération intellectuelle très très profonde. Celui qui est intelligent arrive à diviser. Il arrive à séparer, distinguer. Quelquefois c'est distingué, quelquefois c'est séparé. Ce qui est de nécessaire et ce qui est d'accidentel, c'est peut-être même la marque la plus nette d'un être intelligent. Un être pas très intelligent, il enfourre le plus qu'il peut. Et au bout d'un certain temps, il s'enlise dedans. Il en ajoute. On se demande pourquoi il s'arrête à un moment donné. Parce qu'il reste toujours dans des choses accidentelles, des choses secondaires. Alors il peut en ajouter indéfiniment. Et au bout d'un certain temps, on se fatigue. On se fatigue, c'est indéfini son discours. On a envie de dire, mais d'où partez-vous et où allez-vous? Où est-ce que vous voulez en venir? Dites un tout petit peu. Il s'enlise. Un être intelligent, il a du recul. Il saisit tout de suite ce qui est nécessaire et ce qui est secondaire. Et dans une situation un peu confuse, il voit tout de suite. La confusion, elle vient de là. Oui, c'est juste l'inverse de la confusion, la division. Puisque la division lutte contre la confusion. Et on divise dans l'ordre pratique et on divise dans l'ordre spéculatif. La division est une opération de l'intelligence extrêmement profonde parce qu'elle est commune à l'intelligence dialectique et à l'intelligence analogique. C'est rare de voir qu'il y a quelque chose de commun entre les deux. Heureusement qu'il y a quelque chose de commun entre les deux. La dialectique divise thèse et antithèse. On divise un tout. C'est le propre de la dialectique. Et dans la connaissance analogique, on divise encore, mais pas de la même façon. C'est une division beaucoup plus qualitative. Je dis quelquefois méchamment. Comprenez bien, c'est méchant ce que je dis là. Mais on a le droit de l'être de temps en temps. Montrer qu'on a des dents bien faites. Alors, je dis de temps en temps, la dialectique, on coupe le poulet avec le ségateur. Et l'analogie, on coupe le poulet comme une maîtresse de maison sait couper un poulet. Non pas avec le ségateur, c'est lamentable. Mais avec un couteau, elle tire exactement pour saisir. Oui, organiquement. On divise organiquement. Il y a des gens qui divisent de l'extérieur. La quantité, ça se divise de l'extérieur. Parce qu'il n'y a pas d'organisme dedans. Alors vous avez parfaitement droit d'employer le ségateur. Quand vous êtes dans la quantité, vous coupez avec le ségateur. Il y a certaines choses qu'on doit couper avec le ségateur. Mais c'est lamentable de couper avec le ségateur quelque chose d'organique. Moi, ça me fait mal au cœur. Chaque fois que je vois un poulet coupé avec le ségateur, c'est effrayant, je dis. Civilisation brute qui coupe un poulet avec le ségateur, c'est effrayant. Parce que ça ne respecte pas le point de vue organique. Réfléchissez là-dessus. C'est pas si bête. Réfléchissez à la division qui se fait de l'extérieur avec le ségateur. On divise la quantité. Vous avez le droit, quand on vous apporte une tarte, de la couper géométriquement, autant que possible. C'est tout à fait normal. Mais vous feriez la même chose avec un poulet qu'on vous apporte. C'est vrai. Bien, l'intelligence, dans l'ordre pratique, on voit tout de suite ça. L'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif. Mais poussez un tout petit peu du côté de l'intelligence, vous verrez qu'en effet, une intelligence dialectique. Depuis Hegel, nous avons une intelligence dialectique. C'est à la mode. C'est à la mode. On peut pas éviter ça. Si on évite ça, ça ne va pas du tout. L'intelligence dialectique, elle coupe, elle divise. L'intelligence analogique, elle est qualitative. C'est une chose extrêmement importante pour saisir ça. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? L'opération de division. Et on divise selon deux registres. Je crois qu'on divise de l'intérieur. On divise de l'extérieur. Intus legere, lire de l'intérieur. C'est l'analogie. Et diviser de l'extérieur, c'est la dialectique. Vous comprenez que ça demanderait beaucoup, beaucoup, beaucoup de développement, ça. Et beaucoup de critiques. Mais c'est capital. Alors ici, j'essaie de comprendre un peu. Les choses importantes, la vérité, le discernement, la division. Pas de discernement sans division. Sans saisir le nécessaire et l'accidentel. Sans saisir l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif. Sans saisir le point de vue d'une division qui se fait de l'extérieur et une division qui se fait de l'intérieur. Tout ça, c'est l'intelligence. En acte. Quand j'ai un problème et que j'en cherche une question, quand je lis un livre, si je lis avec intelligence, ah si je lis sans intelligence, je lis, pas comme je te pousse. J'ai commencé, au début, je termine à la fin. J'ai rien compris. Ça n'a pas d'importance. Je l'ai lu. Je peux peut-être dans la bibliothèque. Je l'ai lu. Si vous lisez avec intelligence, vous lisez en discernement. Qu'est-ce qu'il y a de vrai? Qu'est-ce qu'il y a de faux? Quand vous lisez le journal, vous pouvez lire le journal bêtement. Vous êtes fatigué, c'est normal, vous avez une excuse. Vous lisez. Mais il y a interprétation de cette information. Même pour un chien écrasé, il y a une interprétation. Vous savez bien, je me souviens d'une conférence qu'on avait faite à Fribourg, du directeur du Monde, de ce temps-là, qui était assez illustre. Et alors, il nous dit, ici à Fribourg, on est thomiste, l'objectivité. Quelle est l'objectivité du journaliste? Eh bien, l'objectivité du journaliste, c'est le point de vue sous lequel on regarde une chose. Alors il a développé ça, c'est admirable. Et c'est vrai, l'interprétation, c'est le point de vue sous lequel vous regardez une chose, mais c'est pas l'objectivité. C'est pas du tout l'objectivité, c'est une interprétation. Quand vous voyez un chien écrasé, vous pouvez l'interpréter de diverses manières. Quand vous voyez une voiture qui est déraillée, qui est tombée dans le fossé, et puis qu'une autre aussi, vous pouvez interpréter comme vous voulez, de diverses manières. Il y a l'interprétation, puis le fait. Interpréter, c'est aussi l'intelligence. L'intelligence interprète. L'intelligence ne se constante pas du tout de regarder un fait. Elle l'interprète tout de suite. C'est encore une manière de regarder ce que c'est que l'intelligence. Puis alors, d'autres activités qui sont encore plus manifestes de l'intelligence, l'intuition. Au seul soir où j'ai fait mes études chez les Dominicains, il y avait chaque année un petit jeu critique des étudiants. Les étudiants faisaient un guignol, le guignol des professeurs. C'était excellent comme santé. Si on faisait ça à la Sorbonne, ça irait mieux. Alors, mais on ne peut pas le faire à la Sorbonne, c'est impossible. Il faut une certaine unité entre maître et disciple pour pouvoir faire ça. Parce que les professeurs assistaient au guignol, c'est évident. Ils voyaient la manière dont on les regardait. Ils changeaient de lieu, tu vois. D'habitude, c'est eux qui parlaient, là ils écoutaient. Et c'est bon de jouer toujours entre les deux. Hein. De savoir, plus on parle, plus il faut savoir écouter. Et plus on sait écouter, plus on doit ensuite savoir parler. Alors il y avait le guignol d'abord. Il y a eu un guignol une année, je ne dis pas c'est qui, qui était assez extraordinaire. Le recteur a eu une intuition. C'était le thème. Donc tout le thème sur l'intuition. Il y a des gens qui ont des intuitions. C'est curieux l'intuition. C'est très très curieux l'intuition. L'intuition dans l'ordre artistique, c'est quand même l'intelligence. Les grands artistes sont des gens très intelligents. Les grands politiques sont des gens très intelligents. Ils ont des intuitions. L'intuition, les grands métaphysiciens sont des gens qui ont des intuitions. Quand Bergson dit, et j'aime beaucoup cette affirmation, quand on lit un philosophe, il faut toujours chercher son intuition dominante. Il explique tout le reste. Pourquoi ? Parce que l'intelligence aime d'unifier. Et l'intuition permet d'unifier. Quand on reste dans la multitude, on ne peut pas saisir une chose. Il faut l'intuition. Saisir l'intuition. On a tous ces intuitions, plus ou moins profondes. Qu'est-ce que c'est que l'intuition? Un problème très important. Qu'est-ce que c'est que l'intuition? La différence entre l'expérience et l'intuition. L'expérience aussi relève de l'intelligence. Ça, c'est sûr. Quelqu'un qui est très attentif. Je voyais quelqu'un qui me disait que l'art lui avait permis. Parce que cet artiste faisait des portraits, d'être particulièrement attentif au visage, à la lumière. On est attentif et on saisit quelque chose qui unifie tout. L'artiste est un homme intuitif. Le mystique est un homme d'intuition. Je crois que l'amoureux est un homme d'intuition. Et le philosophe aussi est un homme d'intuition. Il saisit quelque chose qui unifie le multiple. Ce n'est plus divisé. C'est au contraire, je ne dis pas du tout faire des synthèses, c'est pas des synthèses. C'est dépasser la multiplicité pour saisir la source qui unifie tout cela. C'est ça qu'on appelle intuition. Je sais très bien que si on précisait, on pourrait dire qu'il y a des modalités différentes d'intuition. Et que quand on saisit un principe, ce n'est plus l'intuition, c'est l'intelligence. Ce qui se sert d'une induction pour saisir un principe. Et là, on voit l'intelligence dans toute sa force. Certaines personnes sont incapables de dépasser le sensible. Donc jamais d'intuition. Jamais de saisir un principe. Alors le principe permet d'unifier toute une quantité de choses multiples. Ça, c'est vraiment l'intelligence qui fait ça. L'intuition, je crois, c'est saisir un rapport nouveau dans les formes. L'expérience, au sens fort, c'est le jugement d'existence. Et la saisie d'un principe à partir d'une induction, c'est saisir quelque chose d'absolu, quelque chose de premier, au-delà de quoi on peut vous aller. Là, on est en face d'une activité de l'intelligence dans sa recherche, une intelligence vivante. Et la qualité de l'intelligence, elle est là. Un artiste, un grand artiste, il est intuitif. Je me souviens, un des premiers voyages que j'avais fait, puisque je devais enseigner la philosophie grecque à Fribourg, je m'étais dit, c'était un devoir d'aller en Grèce. C'est un devoir. Quand on enseigne la philosophie grecque, il faut quand même aller en Grèce. C'est un doux devoir. Et là, il y avait une occasion merveilleuse d'aller en Grèce. Ça coûtait presque rien. C'était un voyage, sitôt la guerre, organisé par l'université de Genève. Invité par l'université d'Athènes. C'était un voyage au niveau universitaire. Oh, comme je connaissais des amis à Genève, j'ai pu partir avec eux. Et parmi ces universitaires, il y avait quelques artistes de l'académie. Entre autres, un sculpteur que je connaissais bien, c'était du reste par lui, que j'avais pu m'infiltrer. Et c'était un sculpteur merveilleux. C'est agréable de voyager avec un artiste, un sculpteur ou un peintre. Alors on était dans une des grandes îles. Et subitement, je reçois un coup de coude en pleine poitrine. C'était mon artiste qui me dit, oh, regardez cette déesse. Moi, je l'avais pas vue. Mais lui l'avait vue. On était en effet subitement en face d'une grecque aux yeux grecs. Étonnant. C'était une déesse, évidemment. Vous voyez l'intuition de l'artiste. Il saisit ça tout de suite. Et ainsi de suite, vous voyez. Ça, c'est l'intelligence qui pénètre au-delà de la diversité. Il saisit quelque chose d'un. Au-delà de la diversité, il saisit un nouveau rapport, quelque chose d'étonnant. Qui met en état d'admiration. Enfin, il y a la contemplation. Alors, elle est rare. Ah, c'est pour ça que je termine par là. Elle est rare. Une opération intellectuelle. L'intelligence seule peut contempler. Alors il y a une contemplation esthétique, artistique. Celle-là, tous ceux qui ont un peu le sens artistique peuvent la voir. Il y a une contemplation affective. Quand on aime quelqu'un, on le contemple. donc au-delà du monde biologique. Le point de vue biologique n'explique pas la signification. Le point de vue biologique n'explique pas l'universel. Et la signification à ce mode d'être universel. Le langage a quelque chose d'universel. Et si j'étais uniquement un être biologique, je ne comprendrais pas qu'il y a en moi cette capacité de dépasser cela. Je pourrais prendre quelque chose de plus simple, le sourire. Le sourire, c'est l'expression de l'intelligence dans le sensible. C'est de l'ordre artistique, le sourire. Il n'y a que les artistes qui savent sourire. Et ceux qui aiment beaucoup. Les autres personnes ne savent pas sourire. C'est tellement sérieux. Ils ne savent pas sourire. Le sourire, c'est l'intelligence à travers le sensible. Le premier sourire d'un enfant, c'est l'intelligence à travers le sensible. Une capacité. Quelque chose de tout à fait particulier. Vous voyez, le langage à quelque chose d'universel. Et aujourd'hui, on dira que les animaux supérieurs ont un langage. Alors moi, je pose la question, est-ce que les animaux supérieurs ont un sourire? C'est important. Au-delà du langage, il y a le sourire. Et l'intelligence se manifeste là. Il y a cette capacité spirituelle au-delà de la matière. Cependant, et alors ça c'est très important, qui cependant s'exerce toujours avec l'imagination. Vous ne pouvez pas poser un acte d'intelligence sans que l'imagination soit présente. L'exercice de toutes nos facultés intellectuelles, c'est un fait, il suffit de constater, implique toujours un lien avec l'imaginaire. C'est pour cela qu'on pourra faire certaines opérations chirurgicales qui feront qu'un être sera dans l'incapacité de poser un acte intellectuel. Quand je suis arrivé à Fribourg, c'était en 45, il y avait un chirurgien qui avait découvert quelque chose d'extrêmement intéressant. Je ne pourrais pas le répéter exactement, alors je ne veux pas le répéter. Qui avait découvert la possibilité, une petite opération, rien du tout, de remettre les personnes à l'âge de 4 ans. Alors, on lui a amené les vieux grands-pères, chacun, mauvaise humeur. Alors, faisait une petite opération, rien du tout, ça avait mal au temps pour faire une petite opération. Et puis, il revenait à 4 ans. Plus rien, au niveau de l'intelligence. C'est des êtres purement végétatifs. C'est bien connu, tu vois, cette petite opération. Au bout d'un certain temps, on lui a dit, hein, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'était trop commode, vous comprenez. Le grand-père a pas emmené dans la chaise. C'était tout. C'était un enfant de plus. C'était beaucoup plus commode, tandis que les colères du vieux grand-père, c'était pas commode du tout. Et puis il était intelligent, et puis il avait toujours raison. Et là, il n'y avait plus de raison. C'est vrai que toute notre vie intellectuelle est dépendante dans son exercice de notre vie biologique. Je ne peux pas poser un acte d'intelligence sans le concours de l'imagination. Et mon imagination est liée à toute ma vie biologique. C'est très important de faire le discernement, de bien voir à la fois la dépendance de l'exercice de ma vie intellectuelle, je dis bien l'exercice de ma vie intellectuelle, avec l'imaginaire, et en même temps que mes actes intellectuels, si je regarde leur signification, sont au-delà de la représentation et du domaine proprement imaginatif. Je suis capable de connaître l'universel. Je suis capable de connaître une notion qui a un mode universel. Et Je suis au-delà du domaine imaginatif. Mais l'exercice de mon acte intellectuel implique toujours l'imaginaire. Même les la contemplation la plus élevée reste toujours liée à l'imaginaire. C'est pour ça que je peux très bien agir physiologiquement sur l'exercice de l'intelligence et l'empêcher. Et c'est pas à cause de ça qu'on dit, mais voyez, l'intelligence, mais elle ne dépasse pas du tout le biologique. Elle ne dépasse pas le biologique dans l'ordre de l'exercice. Ça faut le reconnaître. Et elle dépasse le biologique dans l'ordre de la détermination, dans l'ordre spécifique, dans l'ordre de la contemplation, dans l'ordre du contenu intellectuel. Donc l'intelligence, c'est cette capacité d'émergence à l'égard du biologique, de dépassement à l'égard du biologique. Puissance capable de connaître. Et cette connaissance aura deux grands aspects. Une capacité d'assimilation et une capacité de discernement. Sans parler de la troisième capacité de raisonnement. Je crois que le propre de l'intelligence humaine implique en premier lieu un appétit spirituel qui nous fait assimiler les choses. Quand on connaît, on assimile. C'est le propre d'un vivant. On assimile intentionnellement. C'est-à-dire qu'on assimile d'une manière telle que, de fait, on possède en soi de nouvelles formes qui ont leur propre signification. On assimile. L'intelligence a une capacité d'assimilation, ce qu'on appelle l'appréhension. Et l'intelligence a une capacité de discernement dans le jugement. Il y a les deux. On comprend très bien ça. Et on voit très bien les familles d'intelligence. Il y a des gens, il y a des intelligences qui sont avant tout assimilatrices. Et dans la ligne de l'assimilation, ce sera l'intuition. Il y a des intelligences qui sont beaucoup plus du côté du discernement, du côté de la critique. Ils ont un souci de critiquer, de diviser, d'analyser. Ce sont des intelligences plus scientifiques. Et puis il y aura au secours, à l'aide du discernement et de l'appréhension, le raisonnement. Le raisonnement est une opération qui, de fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas caractéristique de l'intelligence. Elle est caractéristique de notre intelligence raisonneuse, de notre intelligence humaine. Et ce raisonnement, c'est pour mieux discerner. Et ce raisonnement, c'est pour mieux saisir. Donc les deux grandes activités de l'intelligence, c'est saisir pour assimiler, et c'est discerner en jugeant, en divisant, en analysant. Mais c'est vrai que les intelligences, pour des quantités de raisons, c'est sans doute la première éducation que nous avons reçue. Quand on vit dans un milieu très artiste, on développera énormément l'intuition. Quand on vit dans un milieu très positiviste, on développera énormément le point de vue de la critique. Une intelligence au point de départ est très malléable. Notre intelligence se développe d'une façon très très curieuse. Et c'est vrai, c'est très important de voir ça. Le vieil Aristote disait, au point de départ, notre intelligence est tabula rasa. C'est-à-dire, elle est une capacité à recevoir toutes les formes possibles. Mais elle n'a pas de détermination. Et c'est l'expérience qui vient m'apporter tout cela. Mon intelligence est ouverte à une quantité de choses. C'est pour ça que la première éducation joue tellement. Si vous êtes dans un milieu un peu intelligent, votre intelligence se développe beaucoup plus vite. Si vous êtes dans un milieu pas très très intelligent, pour ne pas dire autre chose.
Bah non, l'intelligence
est un peu devant toujours un été noir. Il faudra du temps, quelquefois, des intelligences très vives se rattrapent après.
Il faut qu'on enlève l'été noir.
Alors on respire. Parce qu'il y a des refoulements intellectuels, hein, faut pas l'oublier. Hein. Freud ne parle que des refoulements affectifs, mais il y a des refoulements intellectuels qui sont beaucoup plus profonds. C'est là où il faut compléter Freud. Des refoulements intellectuels, c'est justement, on oublie qu'il y a un appétit radical en nous. Un appétit de l'intelligence. C'est une capacité naturelle que nous avons en tant qu'être spirituel d'atteindre la vérité. Et la qualité dominante de l'intelligence, la perfection de l'intelligence, c'est d'atteindre la vérité. Et la vérité, c'est quand l'intelligence dépasse la saisie, l'intuition, et que l'intelligence peut arriver à se critiquer elle-même pour voir si ce qu'elle dit, ce qu'elle saisit, est conforme à la réalité. La vérité, c'est toujours cet affrontement de l'intelligence par rapport à la réalité. Et c'est la vérité qui, dans la qualité de l'intelligence, exprime le mieux ce qu'est l'intelligence. C'est vrai. C'est l'intelligence, elle est faite pour la vérité. Et dans un monde comme le nôtre, qui ne recherche plus beaucoup la vérité, le journal que vous recevez tous les jours, peu importe lequel, le journal que vous recevez tous les jours ne cherche pas la vérité. Donc il vous maintient dans une non-recherche de vérité. La télévision ne recherche pas la vérité. Qu'est-ce qui recherche la vérité? Alors ne cherchant pas la vérité, on est dans l'ère de l'information. Et l'information vous donne des indigestions intellectuelles. On a tous connu ça. On a eu des petites intuitions au début, avant de faire une petite thèse ou un petit mémoire. Et on vous dit, ah, informez-vous. Vous allez à la bibliothèque, vous cherchez un livre, un livre, un livre, un livre. 100 livres. C'est l'indigestion. C'est l'indigestion. Assimilez tout ça. Alors votre petite intuition du début, petite flamme, l'été noir. Et c'est ça la vie intellectuelle d'aujourd'hui. On n'éduque plus les intelligences, on les abétit. Et on comprend très bien pourquoi. Parce qu'en les abétissant, ce sera beaucoup plus facile de les conduire n'importe où. Dans les moutons. Ils auront plus d'intelligence. On les abétit. Parce que c'est le culte de l'information. C'est le culte de la méthode. Et ce n'est plus l'intelligence qui doit essayer de découvrir par elle-même progressivement la vérité. Le critère de vérité, ça je peux vous l'affirmer, hein. Le critère de vérité, quand vous faites passer des thèses de philosophie, je ne parle que de ça, c'est mon domaine. Le critère de vérité, quand vous faites passer une thèse de philosophie, n'existe plus. Le seul critère, est-ce que c'est conforme à la méthode? Il n'y a plus que ça. La vérité, ça n'existe plus. Alors, le bien de l'intelligence n'existe plus. Puisque la vérité, c'est le bien de l'intelligence. Et parce que vous ne cherchez plus le bien de l'intelligence, mais l'intelligence, petit à petit, elle devient esclave des méthodes. Esclave de l'information. Et vous avez des gens qui ont des informations énormes, mais qui ne savent absolument plus discerner. Qui ne savent plus juger. Quelquefois anciens, quittons tout cela et respirons l'air libre. Et respirer l'air libre, c'est revenir à ce bien de l'intelligence qui est la vérité. Voyez comment le problème de la vérité
simplement d'être remis en lumière. Il y a diverses modalités de vérité. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Il y a diverses modalités. Il y a des paliers différents de vérité. Il y a une vérité en science. Il y a une vérité en morale. Il y a une vérité en art. Il y a une vérité au plan métaphysique. Il y a des vérités diverses. Mais la vérité, c'est toujours l'affrontement à la mesure. On considère comme quelque chose qui est premier. Alors vous pouvez chercher une vérité dans l'affrontement à une méthode. Mais c'est une vérité qui n'est pas philosophique. C'est une vérité logique. Et c'est la vérité logique qui l'emporte aujourd'hui. On ne peut plus discerner si on est fou ou pas fou. C'est une vérité qui est au niveau purement logique. Et la vérité, comme bien de l'intelligence, comme ce qui ennoblit l'intelligence, n'est plus recherché. Je crois qu'il faut comprendre cela. Vous voyez, le rôle du philosophe aujourd'hui, c'est de démasquer. On ne cultive plus l'intelligence pour elle-même. Et que par le fait même, ne cultivant plus l'intelligence pour elle-même, nécessairement, on fera des êtres rampants. D'autonomie. Parce que je suis autonome dans la mesure où j'atteins la vérité. Et dans les domaines où j'ai atteint certaines vérités, je suis autonome. L'intelligence est source d'autonomie en nous. Et notre personnalité humaine ne peut avoir d'autonomie que dans la mesure où l'intelligence est développée. Et cette intelligence se développe dans la mesure où elle recherche la vérité. Je m'arrête, hein, parce que vous pourrez aller loin pour montrer combien l'intelligence aujourd'hui est un peu laissée de côté et qu'on est dans un domaine de l'image et plus beaucoup du domaine de la réflexion et de la vérité.